We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur We Do Biz pour les rendez-vous du recrutement. Ici Sandrine Chauvin, responsable éditoriale de la rubrique carrière du site capital.fr. Cette semaine, notre thème intéressera tous ceux qui veulent développer leur business. Comment recruter un bon commercial? Avec nous Didier Perraudin. Didier, bonjour.
Bonjour.
Didier, vous êtes directeur associé du cabinet Up2, spécialisé dans le recrutement des commerciaux. Alors Didier, première question, qu'est-ce qu'un bon commercial?
Un bon commercial, c'est y a plein de choses à dire sur un bon commercial. C'est d'abord un commercial qui écoute, qui pose des questions, qui écoute même deux fois plus qu'il ne parle, puisqu'il a d'ailleurs deux oreilles et une bouche, donc c'est pas pour rien. Un bon commercial, ça peut être quelqu'un qui sait aller chercher du business, donc à un moment ou à un autre, qui soit capable d'aller frapper à des portes auprès desquelles on ne l'attend pas. Donc quelqu'un qui sait prospecter. Et puis la troisième grande caractéristique, c'est quelqu'un qui sait conclure, c'est-à-dire qui a un minimum impatient et stressé par le temps pour que l'intention de commande se transforme en commande le plus rapidement possible.
Tous ces éléments-là, je peux les voir en entretien de face à face ou via un test de personnalité, mais sur un CV, comment je fais, moi, en tant que recruteur?
Et c'est la vraie question, c'est que ça ne se voit pas sur un CV, ces compétences-là. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place un dispositif de test en ligne qui permet justement d'évaluer ce qui ne se voit pas sur le CV, à savoir les réflexes commerciaux.
Mais par contre, en tant que recruteur, je ne peux pas prendre le temps de rencontrer tous les candidats qui viennent à moi. Donc, est-ce que j'ai quand même quelques petites astuces, quelques petits critères sur le CV qui peuvent me dire « celui-là, il est plus fait pour chasser, développer le business et celui-là, il est plus fait pour fidéliser ma clientèle ?»
C'est difficile. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le moyen quand même de regarder les performances, hein, parce que bien des patrons répondront différemment que moi à la question de savoir qu'est-ce qu'est un bon commercial. Ils vont dire c'est quelqu'un qui a des performances, c'est sûr. Et ça, souvent, ça se voit sur le CV. Donc on peut présumer, si quelqu'un a des bonnes performances, qu'il a toutes ces compétences-là. Mais c'est pas forcément le format idéal pour détecter le potentiel.
Et le diplôme, c'est important?
Non.
Donc, par exemple, un diplôme en école de commerce, ça ne fait pas forcément un bon commercial?
Non, ce qui est intéressant en école de commerce, c'est que c'est des gens qui travaillent pas mal sur des business cases assez concrets, qui ont des liens assez forts avec les entreprises, qui font des années de césure à l'étranger, qui font des choses qui les obligent à se débrouiller et à se vendre eux-mêmes, peut-être plus que dans des parcours universitaires ou publics. Mais fondamentalement, on n'apprend pas la vente en école, ça c'est sûr.
Par contre, en termes de salaire et pour une PME, est-ce que c'est pas plus intéressant de recruter quelqu'un qui sort d'un BTS Action Commerciale ou d'un IUT?
Par rapport à une école de commerce?
Oui.
De toute façon, dans les écoles de commerce, globalement, on a assez peu de candidats parce que c'est assez paradoxal. C'est que il y a peu de gens qui veulent faire du commerce et de la vente quand ils sortent d'école de commerce. Ils veulent tous faire de la finance ou du marketing, pour faire court. Donc, effectivement, le gros vivier est beaucoup plus sur les BTS, les EUT et les formations un peu généralistes où on trouve des commerciaux.
Donc ça, c'est pour les profils juniors. Qu'est-ce que peut apporter un junior à une entreprise?
Le fait que ça soit une éponge. Un bon junior, c'est une éponge. C'est-à-dire que quand on va lui apprendre un truc, il va le dérouler sans se poser de questions. Et sans avoir d'a priori qui se développe forcément avec l'âge un peu, hein, et avec l'expérience. Donc c'est ça, la force d'un junior, c'est quelqu'un qui veut se prouver qu'il y arrive. Donc d'avoir la pêche et la niaque. Et puis parallèlement à ça, d'avoir effectivement ce côté de bon apprenant.
Et ce profil-là, il est intéressant pour quel type d'entreprise, pour quel type de mission?
Pour les missions où les cycles de vente sont sans technicité, c'est-à-dire où les produits sont assez simples, où il faut, avec des cycles de vente plutôt courts, là, c'est intéressant de prendre des juniors.
Par exemple,
Les ventes de sites internet, les ventes de solutions télécom, les ventes de solutions bureautiques, quelques ventes de services, de publicité, de régie, etc.
Et à l'inverse, un senior devient pertinent pour quel type de business?
Sur des business, pour adresser des grands comptes, parce qu'il faut une certaine maturité, et pour vendre des solutions techniques un peu complexes sur des cycles de vente longs à forte valeur ajoutée.
Alors celui-là, je vais le recruter aussi pour son carnet d'adresses. Comment, en tant que patron d'entreprise, je peux m'assurer qu'il a le carnet d'adresses qui va bien et qu'il va pouvoir l'utiliser?
En décortiquant les deals qu'il a fait, lui demander d'abord ce qu'il a fait comme deal, et puis rentrer dans ces deals-là, et puis de croiser les informations, lui demander des noms, et puis prendre des références.
Prendre voilà. des références, ça veut dire appeler un ancien employeur ou...
Voilà, exactement, quelqu'un qui l'a managé, qui à un moment ou à un autre va pouvoir ou pas confirmer ce qu'il annonce en entretien.
Et après, est-ce qu'il faut se méfier de la clause de non-concurrence pour un commercial ?
Non, parce qu'il y en a plus, elles sont quasiment juridiquement plus valides, sauf celles qui sont rémunérées, mais c'est assez rare que les employeurs les activent. Donc globalement, il n'y a pas tellement de sujets là-dessus.
Donc ça veut dire qu'elles sont caduques et dans tous les cas, c'est l'employeur ou l'employé qui est exposé si toutefois...
C'est l'employé qui est exposé s'il en a une et si son employeur lui active et la rémunère. Donc faut-il encore que l'employeur soit prêt à le faire, d'une part, et puis ensuite... c'est assez discutable parce qu'en gros, ça empêche le salarié de travailler, ce qui est contraire au droit français. Donc, globalement, il y a de moins en moins d'employeurs qui l'activent. Il y a assez peu de risques.
En termes de rémunération, à quel niveau de salaire il faut que je me place pour pouvoir avoir un bon commercial, justement ?
Bon, ça, c'est très variable selon les secteurs. Nous, on a fait une étude qui est assez précise, métier par métier, année d'expérience par année d'expérience. Un bon commercial sur Paris, quand il est junior, il faut le rémunérer à peu près 30 000 euros au minimum pour avoir des gens de bon niveau. En B2B, hein, j'entends, hein, pour des gens qui vendent à des entreprises, parce que nous, on est spécialisés sur les commerciaux B2B. Et ensuite, ça peut monter jusqu'à 50, 60, 70, peut-être un peu plus parfois. Et après, en gros, les secteurs qui payent le plus, évidemment, l'informatique, toujours, encore et toujours. Et puis tout ce qui est les postes de commerciaux grand compte.
Et quelle est la part de variable dans les salaires que vous donnez ?
En gros, on considère maintenant que la moyenne, c'est 70-30.
D'accord. Est-ce qu'on peut aller au-delà, c'est-à-dire faire du 50-50, par exemple ?
Il y a moins d'un commercial sur 10 qui gagne plus en variable qu'en fixe.
Pourquoi ?
Parce que c'est... parce que c'est les chiffres qui le disent d'abord, vous me prenez à court, mais parce que globalement, les entreprises ont essayé, les financiers, je pense, ont essayé de cadrer un peu les variables pour éviter des trop gros écarts.
Et est-ce que c'est aussi un élément de motivation, c'est-à-dire d'avoir un variable, ça permet de motiver pour recruter, pour trouver des clients. Par contre, d'avoir un fixe, ça permet aussi de fidéliser le salarié.
Oui, et puis à l'embauche, en fait, les candidats regardent d'abord le fixe, parce que le variable, ça reste du registre de la promesse. Et il y a des recruteurs qui un peu abusent de cette promesse-là en disant que les variables peuvent être très élevées alors que dans la réalité des choses, ils ne le sont pas. Donc ça a déclenché, ces abus-là ont déclenché des comportements assez méfiants de la part des candidats qui finalement regardent le fixe et éventuellement ce que gagnent les moyennes de variables dans l'entreprise.
Comment on fait pour pas abuser justement parce qu'on a du mal à situer ?
Il faut demander à son employeur, en fait, faut faire parler le patron pour savoir le variable annoncé qu'il gagne déjà dans l'équipe pour essayer de le confronter avec la réalité du terrain. Si un employeur vous promet 20 000 euros de variable et vous rendez compte que vous êtes le premier commercial ou que s'il y a déjà des commerciaux en place, en fait, personne ne les touche, c'est qu'il y a quand même un petit sujet, quoi.
Et en tant que moi, patron d'entreprise, patron de PME, c'est mon premier commercial, là, dans quelle fourchette je peux me situer raisonnablement et pas faire peur aux candidats, justement ?
70-30, ça me semble raisonnable.
Avec quel pourcentage, du coup, quel montant de variable je peux lui promettre ?
Si c'est un junior, on peut faire entre 25 et 32 fixes et puis un variable à peu près 10-15 000 euros. Il va respecter ces proportions-là, même quand le salaire grandit.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour motiver les candidats pour venir dans une PME plutôt que d'aller dans un grand groupe où il y aura un variable plus facile à faire ?
C'est sûr que la grande entreprise est beaucoup plus à l'aise pour attirer des profils parce qu'il y a plein d'avantages sociaux que n'ont pas les PME. Déjà, il y a des tickets restaurants, il y a systématiquement des RTT, il y a des mutuelles, des comités d'entreprise, des choses que n'ont pas les PME. Donc les PME, effectivement, elles n'ont pas beaucoup d'armes à part le fixe. Et on se rend compte souvent dans nos clients que les PME qui ont du mal à recruter, elles n'ont plus qu'une seule solution, c'est attirer les gens avec des fixes un peu supérieurs.
D'accord, donc c'est pas 80% par exemple, passer à 80% de fixes.
Oui, ou d'augmenter en valeur le fixe. Et, je pense que les fixes sont souvent plus importants dans les PME que dans les forces de vente très organisées, très structurées de grandes entreprises.
Est-ce que de devenir associé par exemple de la PME, ça peut être un élément de motivation ?
Oui, c'est difficile à formaliser, c'est difficile à monter, mais effectivement, ça peut en être un. Ouais.
Il y a beaucoup de PME qui vous demandent, qui vous font ce plan-là ou...
Non, parce qu'à l'embauche, elles veulent pas trop s'engager là-dessus. Elles le prévoient comme évolutivité possible, mais elles le mettent en œuvre au fil des résultats et au fil des années.
Au sein de votre cabinet, Didier, comment vous faites pour trouver justement la perle rare, le commercial Calagnac qui a vraiment envie de développer le business?
Bah parce qu'on a une expertise vente qui est quand même assez marquée. L'expertise vente se traduit dès la candidature, parce qu'on a un test de réflexes commerciaux en ligne qui est redoutable et qui nous permet de voir un peu tous ceux qui sortent du lot en termes de potentiel. Donc ça, c'est des petites mises en situation. C'est assez amusant à faire d'ailleurs. C'est évidemment gratuit et ça permet de révéler les talents de la vente. Et ensuite, une fois qu'on les reçoit, c'est un peu toute la méthodologie de nos consultants, de savoir effectivement bien décortiquer ce que le commercial a fait, et puis son potentiel, son comportement. Et pour
faire une mise en situation, par exemple, c'est avec un cas pratique, là, c'est une bonne technique, y compris pour le patron qui recruterait
absolument,
directement.
Absolument, on travaille beaucoup là-dessus, et c'est extrêmement révélateur. Même des petits jeux qui durent 5 minutes, on voit très facilement des comportements se révéler.
D'accord, donc exemple à suivre hein, à nos auditeurs. Et maintenant, au rendez-vous du recrutement, on a une petite habitude, c'est de trouver un dicton ou la petite phrase qui résume finalement votre philosophie pour recruter le bon commercial qui va développer notre entreprise. Donc Didier.
Oui, donc je dirais que si vous voulez recruter un bon commercial, évaluez d'abord le potentiel avant d'analyser son CV.
Didier, merci pour tous ces conseils. Donc le CV après, la motivation d'abord. Et chers auditeurs, à la semaine prochaine pour nos prochains rendez-vous du recrutement sur WeDoBiz, tous les lundis à la même heure.